Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, pour évoquer avec elle les titres à la une de La Marseillaise du journal à paraître ce vendredi 14 avril. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence cette une avec la bataille des retraites et le décryptage des différents scénarios avant la décision du Conseil constitutionnel ce vendredi 14 avril.
Oui, tout à fait. Alors, comme on le sait, il y a une 12e journée nationale de mobilisation, jeudi 13 avril, la veille d'une décision importante du Conseil constitutionnel. Donc, on a fait le choix dans notre dossier de décrypter les différents scénarios avant cette décision en rappelant que si la loi, ce texte très controversé de réforme des retraites, avec un fort mouvement social contre la retraite à 64 ans, a été adopté sans vote. Il faut que la loi soit promulguée, il faut que le Conseil constitutionnel vérifie la validité constitutionnelle du texte. Il y a beaucoup d'arguments qui pour, contre, donc on va les décrypter dans ce dossier. Et il y a aussi une deuxième décision que doivent rendre les juges du Conseil constitutionnel, c'est la décision sur le référendum d'initiative partagée.
Oui.
Et donc là, c'est intéressant aussi parce que si le Conseil constitutionnel valide cette demande qui a été formulée par des parlementaires de gauche, on va peut-être ouvrir une nouvelle séquence de cette bataille des retraites avec une consultation déjà plus large des citoyens. Ça dure plusieurs mois, donc ça ouvre le champ à un véritable débat, puisque ce qu'on souligne aussi, c'est que cette réforme des retraites a été particulièrement vécue de façon très brutale par le mouvement social, par les salariés et leurs représentants qui sont les syndicats, où il n'y a eu absolument pas de place pour des contre-propositions, des propositions alternatives.
Oui.
Et on voit même que le chef de l'État, Emmanuel Macron, se fait interpeller sur cette question au-delà
de
nos frontières, comme c'était pays mardi.
À lire aussi dans les colonnes un entretien avec le sociologue Sébastien Rocher sur les pratiques policières, et j'imagine qu'il y a de quoi dire.
Oui, alors c'est intéressant parce que Sébastien Rocher, il est directeur de recherche au CNRS, il est sociologue, il est spécialiste des questions de police. Il travaille sur ces questions-là, du rapport notamment de la jeunesse avec la police sur le maintien de l'ordre. Et ça fait une bonne dizaine d'années qu'il mène ses recherches. Et donc, il nous a semblé intéressant de l'interroger parce que on a tous été témoins en regardant des vidéos ou même en pouvant le vivre en étant en manifestation, d'un maintien de l'ordre qui vraiment pose question dans une démocratie comme la France. Alors, ce que nous dit Sébastien Brochet, c'est que c'est très important d'avoir ce qu'il appelle une bonne police, parce que la mauvaise police fait peser de gros dangers sur la démocratie et la cohésion sociale d'une société. Et il nous explique de façon très détaillée que la réponse gouvernementale a été, pour l'instant, de sortir quand même de l'état de droit.
Comment préparer la vigne au changement climatique ? C'est aussi à retrouver dans La Marseillaise ce vendredi, l'exemple prometteur mené dans le Gard avec des cépages résistants.
Oui, alors là, c'est la Chambre d'agriculture du Gard qui mène une expérimentation depuis 2021 et qui vient de planter les derniers cépages. Alors, ils ont choisi 63 variétés de cépages qui testent donc au Mas d'Aspor, c'est donc à Saint-Gilles, et donc ils vont étudier ça sur une dizaine d'années. Ce sont des cépages qui ont été choisis en Grèce, en Italie, dans des pays méditerranéen. Et donc, ce qui est véritablement en jeu, c'est l'avenir du vignoble et donc le métier de vigneron.
D'accord. On reste dans l'agriculture et la question, c'est est-ce que les fermes verticales sont l'avenir ? La Confédération paysanne ne le pense pas et organise une marche ce 15 avril.
Oui, tout à fait. Ça se passera à Rodillan. Ça sera le samedi, donc 15 avril. Alors, ils vont faire une marche pour alerter sur un projet de ferme verticale. Et alors, nous expliquons pourquoi dans cet article, pourquoi les paysans s'inquiètent et aussi en quoi consistent ces projets de ferme hors sol qui sont conçus par une start-up qui s'appelle Futura Gaia. Et donc, on pose la question vraiment sur est-ce que c'est une véritable alternative pour la Confédération paysanne qui organise cet événement. Ce qu'il faut pour eux, c'est réintroduire des paysans, des humains et pas faire des fermes verticales. D'accord. On explique tout ça dans cet article.
Et pour finir, un petit peu de culture, la Marseillaise invite à découvrir une conférence illustrée par Thierry Arquex sur le quartier de Figuerolles à Montpellier.
Oui, tout à fait. Ça va se passer vendredi 14 avril à la Carmagnole. Donc Thierry Arquex, les lecteurs de la Marseillaise le connaissent, il tient une chronique toutes les semaines sur l'histoire de l'Hérault, de Montpellier, une ville qu'il connaît parfaitement. Et donc là, il s'est attaché à l'histoire du quartier de Figuerolles, dans lequel il a vécu pendant très longtemps. Oui. Il est sociologue et donc il propose au public, grâce à un fonds photographique qu'il va projeter, de montrer l'évolution de ce quartier. Il va aussi s'adapter en fonction des questions que lui posera le public pour montrer l'évolution. Ça peut aller très loin, il peut remonter des millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça a l'air très passionnant. Nous allons en rendre compte, évidemment, en texte et surtout en images.
Allez, à la une de la Marseillaise du vendredi 14 avril, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernard.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, avec la bataille des retraites et notamment le décryptage que propose la Marseillaise sur les différents scénarios avant la décision du Conseil constitutionnel ce jour, le 14 avril.
Oui, c'est ça. Alors, il faut souligner que la veille, le jeudi 13 avril, il y aura la 12e journée nationale de mobilisation, de grève et de manifestation contre ce projet de réforme Macron des retraites, dont le cœur est le recul de l'âge de la retraite légal à l'âge de 64 ans, ce que ne veulent absolument pas la majorité écrasante des salariés et dans un cœur unanime, tous les syndicats de France. Donc, c'est vraiment une forte opposition. On a fait la chronique de cette grande bataille des retraites ces trois derniers mois, puisqu'on sera à 3 mois de mobilisation. Là, on arrive à un tournant, puisque le Conseil constitutionnel, lui, est chargé de vérifier la validité constitutionnelle du texte. D'accord. Donc, on va mettre sur la table les différents scénarios, une censure, puisqu'il censure il peut complètement censurer le texte. Et là, on va dire que politiquement, c'est une porte de sortie pour le gouvernement qui est fortement remis en cause du fait de son acharnement à vouloir imposer un texte que les Français ne veulent pas, et Emmanuel Macron aussi. Donc, il y a différents constitutionnalistes qui donnent leur opinion. Ils disent pas dans le bar de café, mais il y a des arguments. D'accord. Il y a notamment des arguments, et nous les interrogeons, de juristes qui sont spécialisés sur les questions sociales, sur le droit social, et qui décryptent pourquoi ce texte, à leurs yeux, si on s'en tient au droit et strictement au droit, sans considération politique, ce texte devrait être censuré. Donc, c'est intéressant de donner à lire à nos lecteurs les arguments. Il y a aussi une deuxième décision que doit donner ce jour-là, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel, c'est se prononcer sur la validité ou pas de cette demande de référendum d'initiative partagée le RIP sur la réforme des retraites. Mmh. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que s'il valide cette demande de RIP, qui a donc été déposée par une majorité de parlementaires de gauche, oui, ça va ouvrir la porte à un processus démocratique, comme son nom l'indique, un référendum. C'est une solution qu'aurait pu aussi décider le président de la République, mmh, puisqu'il a le droit, par la Constitution, d'en organiser. Il refuse, et on se doute bien pourquoi, mais les parlementaires peuvent en faire la demande. C'est intéressant parce que ça va donner de la respiration, s'il est validé, de la respiration démocratique au pays, oui, qui en a bien besoin. Et donc, on explique vraiment ça de façon détaillée pour que, bah, comme d'habitude, les lecteurs aient toutes les clés en main pour se forger, mmh, leur propre idée, leur propre opinion, et sachent de quoi on leur parle quand ils entendent des informations par ailleurs. En fait, le but de notre dossier, c'est de donner des clés de compréhension pour comprendre la décision du Conseil constitutionnel qui, mmh, sera donnée le 14, qu'on donnera évidemment sur notre site internet lamarseillaise.fr, mais avec ce dossier qui permet aussi d'aller un peu plus loin. Mmh.
Mais on est d'accord, Françoise, qu'avec un conseil constitutionnel plutôt à droite, le texte ne risque pas d'être censuré, ce sera plutôt quelques articles qui risquent d'être retoqués.
Alors, ça, c'est ce que nous disent, oui, on a déjà interrogé, notamment dans le numéro de cette semaine, Paul Ariès, qui est aussi un spécialiste de la Constitution, qui, mmh, milite beaucoup pour la 6e République, qui, lui, nous fait part de, bon, il est un peu dubitatif, vu le profil du Conseil constitutionnel, puisque c'est pas vraiment des personnes indépendantes. Mmh. Ils ont été aussi nommés par les présidents de la République. Donc, mais il y a aussi ceux qui disent s'ils jugent vraiment en droit, il y a la jurisprudence. Donc, oui, en fait, voilà, c'est possible. Probable qu'il ne censure pas complètement, mais on ne peut pas le dire de façon affirmative.
D'accord. Allez, à lire dans les colonnes de la Marseillaise aussi un entretien avec le sociologue Sébastien Rocher sur les pratiques policières.
Oui, alors Sébastien Rocher, c'est vraiment il est directeur de recherche au CNRS. C'est un spécialiste des questions de police, hein, mmh, notamment des relations, notamment il a beaucoup travaillé sur les relations jeunesse et police. Oui. Et là, nous l'avons interrogé parce que et on a quand même affaire depuis l'usage du 49-3 à un basculement dans le maintien de l'ordre.
Oui, de la doctrine du maintien de l'ordre.
Voilà. Et donc, ce qu'il nous explique dans un long entretien, qui est extrêmement passionnant à lire parce qu'il apporte des éclairages auxquels on ne pense pas forcément, mais bon, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il travaille sur ces questions-là. Mmh. Et il nous rappelle quand même que la réponse pour l'instant du gouvernement, c'est quand même de sortir de l'état de droit. Alors évidemment, on ne le fait pas de la même manière qu'un dictateur. Hein. Les opposants ne disparaissent pas, on ne les met pas en prison. Mais il y a des attaques contre des libertés qui, nous dit-il, c'est assez préoccupant.
D'accord.
Bon, ici, de la liberté de la presse, hein, qui a été condamné par d'autres pays en Europe. Mmh. Il y a le droit aussi, le droit de filmer des policiers, qui a été aussi attaqué.
Oui.
Et il y a eu un usage complètement illégal, nous dit-il, de ce qu'on appelle les NAS,
oui,
c'est-à-dire des groupes de gens qui sont encerclés et qui sont gazés en même temps.
Mmh.
Et puis, surtout, il revient sur ces centaines d'arrestations qui sont complètement illégales, puisqu'il rappelle qu'on est quand même dans un pays où manifester, c'est un droit,
mmh,
et on peut manifester même quand une manifestation n'est pas déclarée, ça ne fait pas de vous un délinquant.
Mmh.
Ce qui est intéressant aussi, c'est pour revenir à la jeunesse, on lui a posé la question, on a vu des lycéens notamment se mobiliser pour la première fois, hein, de leur jeune vie de citoyen contre la réforme des retraites et subir des violences policières. Hein.
Oui.
Il y a eu des vidéos assez choquantes. Hein. Alors il nous explique, pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, c'est que les études qui ont été menées montre que les adolescents, en fait, comprennent le monde à travers leur expérience personnelle.
Oui.
Donc, et les conséquences de cette expérience, c'est que les adolescents, à travers ces expériences, ils se font une idée de la place qu'on leur donne dans la société et de la considération qu'ils reçoivent.
Oui.
Donc, il nous dit, Sébastien de Rocher, que quand ils reçoivent un coup de matraque, lorsqu'ils vont manifester, ils se disent de quoi on me parle quand on parle de citoyenneté. Quand ils se font contrôler au faciès, ils se demandent mais qu'est-ce que ça veut dire être un citoyen.
Oui.
Et donc, il nous explique, au-delà évidemment des dommages physique ou psychologique, hein, puisqu'on prend un coup, on peut être en colère, et il y a des conséquences sur le long terme. Il nous dit que pendant des dizaines d'années, en grandissant, ces adolescents, ils vont porter en eux cette idée d'une république qui les agresse,
oui,
plus que d'une république qui les protège. Et donc, ils vont se sentir à l'écart de la nation. Puisque pour eux, la nation, elle est fabriquée par les contacts qu'ils ont avec les représentants de l'État, les policiers et les gendarmes. Hein,
oui.
Si on s'en tient à ça, il a beaucoup aussi étudié à l'école, mais c'était pas notre sujet d'entretien. Et donc, on lui a demandé aussi, mais comment on peut en sortir de ça? Alors, il y a des mesures, selon lui, qui sont vraiment des mesures de bon sens et de court terme. Hein. C'est tout simplement que le politique donne des instructions pour que les règles de droit s'appliquent.
Oui.
Donc ça, c'est pas compliqué. En revanche, ce qui sera plus compliqué et plus long à mettre en œuvre, c'est l'enjeu vraiment important pour lui de supprimer les armes du maintien de l'ordre. Les grenades et les LBD, par exemple. Puisque même quand les manifestations se passaient correctement, il y a eu quand même des personnes, une personne mutilée, un manifestant dont un des testicules a été détruit. Et c'est pas anodin que même dans ce cadre-là apaisé, il peut y avoir une police qui fait ça. Donc, le problème, c'est que il nous dit que pour les avoir aussi bien étudiés que les policiers et les gendarmes, ils ont développé une addiction à ces armes.
D'accord.
Et ils disent qu'elles sont indispensables. Et il rappelle que c'est faux, Sébastien de Rocher, puisque d'autres pays font sans ces armes. Et des pays comparables, qui peuvent avoir aussi des grandes manifestations, qui peuvent avoir besoin d'un maintien de l'ordre correct.
Oui.
Il cite l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et donc, il dit qu'il faut quand même fixer cet objectif comme un horizon, parce qu'on ne va pas pouvoir le faire du jour au lendemain.
Oui.
Et pourquoi il faut le faire? Parce que c'est pas simplement pour améliorer la police, c'est pour lui une condition de la cohésion sociale. Parce qu'une police brutale n'est pas une police qui favorise la cohésion.
Eh oui.
Or, on a besoin de s'écarter de ce modèle parce qu'il y a une aspiration tout à fait légitime à vivre en paix, à vivre tranquillement. Et si on continue, dit-il, dans cette direction, on sait qu'on va avoir des conflits supplémentaires. Et donc, c'est pour la République et pour la nation qu'on a besoin, selon lui, de réformer profondément le fonctionnement de la police.
Et malheureusement, c'est peut-être pas sous ce quinquennat que ça va se passer.
Alors, pareil, hein, par rapport au ministère de l'Intérieur, il souligne aussi que le ministère de l'Intérieur, quel qu'il soit, mais bon, celui-là, il a toujours eu du mal à s'adapter à la société qui l'environne. C'est-à-dire qu'il communique comme au 19e siècle.
D'accord.
Le préfet parle, le ministre parle, c'est la vérité.
D'accord.
Et donc, il y a une négation des problèmes. Alors, il les ignore parce que ils savent pas ou ils veulent pas reconnaître que maintenant on est informé, si ce n'est mieux, mais autant qu'eux sur ce qui se passe avec les vidéos, avec les témoignages. Et puis surtout, la seconde raison, c'est que c'est un problème qui est profond, qui est compliqué à résoudre. Et donc, pour l'heure, ils préfèrent l'ignorer et faire la politique de l'autruche.
Allez, on change de sujet, on va parler des dérèglements climatiques. Comment préparer la vigne à ce changement? Un exemple prometteur qui est mené dans le Gard avec des cépages résistants.
Alors c'est un exemple qui vaut pour la région Occitanie, mais même qui a une valeur, on va dire, au-delà même de notre région. Hein. Donc c'est le département. Alors il faut savoir que dans le Gard, mais dans l'Hérault, il y a aussi beaucoup de vignes. Il y a 53 000 hectares de vignes.
Et oui.
Donc c'est pour dire que c'est vraiment, c'est parti évidemment des des cultures importantes et c'est tout un pan de l'économie vraiment de notre région et de nos départements, que ce soit le Gard ou l'Hérault. Et dans le Gard, donc on explique dans cet article comment on implante des variétés de cépages résistants aux canicules pour anticiper le changement climatique. Mmh. On sait très bien, on sait que Paris aura en 2050 le climat de Madrid.
Eh oui.
Donc nous, dans le sud, on aura des climats beaucoup plus arides qu'aujourd'hui et on subit déjà de grosses canicules et de grosses sécheresses. Elle est déjà très présente aujourd'hui.
Mmh.
Donc sur le MAS d'Asport, qui donc appartient au, c'est un domaine agricole qui appartient au département, donc à la collectivité locale.
Oui.
Il y a un espace qui est réservé à cette expérimentation où sont testées 63 variétés de cépages. Donc ça a commencé à 2021, ces plantations, et les derniers plants de cépages ont été donc plantés ces derniers jours-là. Et donc ce sont des cépages qui ont été sélectionnés dans des pays méditerranéens,
oui.
La Grèce, l'Espagne, l'Italie, dans des régions vraiment de ces pays très très au sud. Hein, et on va observer. La chambre d'agriculture et donc les ingénieurs aussi agronomes, hein, avec les vignerons, c'est ça qui est intéressant, en partenariat avec les vignerons, ils vont donc observer sur une dizaine d'années comment ces variétés de cépages évoluent dans ce cadre-là. Et ça va permettre d'anticiper le changement climatique. On sait qu'il est devant nous, il est même déjà palpable.
Oui.
Et donc... ce que nous expliquent les personnes qui mènent cette expérimentation, c'est que le fait d'avoir une telle variété de cépages, 63, c'est pas rien,
oui.
Ça va servir non seulement à la région, mais aussi, on va dire, même à toute la planète. Hein,
d'accord.
Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ça se passe sur la commune de Saint-Gilles et ça nous semblait important de montrer que dans notre région, dans notre département, on reste pas passif par rapport à ce qui se passe. Et surtout, c'est l'avenir de toute une profession, le métier de vigneron, et c'est l'avenir du vignoble qui est en jeu. On sait qu'on va devoir changer des cultures, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire pousser. En revanche, la vigne, c'est quelque chose que dans cette région, on veut absolument garder, puisque ça fait vivre beaucoup de vignerons et ça fait vivre aussi beaucoup d'habitants. Hein, voilà. Exactement.
Et c'est très bien, je trouve, que les vignerons prennent le problème à bras le corps comme ça, parce que outre la montée des températures, on peut rajouter l'augmentation de la salinité des sols avec l'augmentation du niveau de la mer. Je pense que les prochaines décennies seront compliquées pour la vigne.
Voilà, et c'est pour ça que c'est important que régulièrement, je pense qu'on fait quasiment toutes les semaines dans la Marseillaise un article sur la question du changement climatique, sur comment les personnes agissent d'un point de vue local.
Mmh.
Parce que là, ce qui est intéressant, c'est une initiative très locale, soutenue par une collectivité, par une profession, par une chambre d'agriculture, avec l'objectif vraiment que ça bénéficie aussi, il y aura un partage aussi de connaissances qui sera profitable à tous.
Ouais. Tout ça va dans le bon sens. On reste en agriculture, Françoise. Avec mais qu'est-ce que c'est que ces fermes verticales ? Est-ce qu'on parle d'hydroponie ?
Alors, c'est la géoponie.
Géoponie.
Alors, on explique tout ça. Donc, c'est à Rodillan. Ça va se passer samedi 15 avril. Et la Confédération paysanne, hein, qui est vraiment mobilisée sur les enjeux de changement climatique, mais surtout sur une agriculture, on va dire, écologique, durable, et surtout d'une agriculture avec des agriculteurs.
Et, oui.
Et donc, c'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça qu'on s'est penché sur leur événement. Donc, c'est une marche de protestation, mais c'est aussi une marche qui se veut pédagogique. Hein. Alors, c'est contre un projet de ferme verticale.
Oui.
Alors, qui se passe, donc, qui est prévu à Rodillan, dans cette commune, donc gardoise aussi. Alors, c'est des projets de fermes hors sol, Donc ce sont des entreprises, alors ça part, alors on leur donne évidemment la parole parce qu'ils expliquent pourquoi et ils ont des arguments, hein, puisque justement eux aussi disent, parce qu'il y a le changement climatique, il va falloir qu'on continue à faire pousser des plantes, des salades, des légumes, mais bon, on n'aura pas forcément le sol pour,
oui.
Donc on va faire des fermes hors sol, c'est-à-dire que ce sont carrément des fermes usines, ça, avec une technique qui s'appelle la géoponie rotative,
oui.
Qui consiste à faire pousser des plantes, évidemment sur du terreau, mais pas sur de la terre, de la vraie terre.
D'accord.
Donc, évidemment, la Confédération paysanne nous explique aussi qu'ils sont un peu vent debout contre ces projets. Nous, on pose la question, est-ce que c'est l'avenir ou pas de l'agriculture ? Pareil, évidemment, notre parti pris, c'est de populariser un peu l'action de la Confédération paysanne, mmh. mais sans noircir non plus le tableau, parce qu'il faut aussi se pencher sur ces formes-là de nouvelle agriculture.
Oui.
Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? On peut avoir le but, c'est que pareil, on se forge son opinion, et surtout pour pouvoir se forger son opinion, il faut avoir tous les tenants et les aboutissants des réflexions. Il y a quand même un problème, c'est que faire pousser des plantes hors sol parce qu'on n'a plus l'espace ou plus le climat qu'il faut, ça peut interroger. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ?
Et oui.
Donc, on pose la question.
Est-ce qu'il ne faudrait pas changer la culture plutôt de ce qu'est-ce qu'on cultive ?
Voilà. Exactement, puisqu'on sait qu'on va devoir, on l'a dit précédemment, là, par rapport à la vigne, mais aussi on sait qu'il y a des choses qui ne pousseront plus sur certaines terres. Il va falloir donc qu'il y ait une et puis aussi, il y a la question de l'eau.
Oui.
La question de l'eau, parce que faire pousser, ça veut dire qu'il faut arroser, et donc la ressource en eau aussi, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est un enjeu
oui.
majeur. Hein.
Surtout si on rajoute des méga-bassines en amont, des cours d'eau.
Voilà. Et puis on se rend compte que c'est sujet à des conflits très très durs, des guerres de l'eau. Elles ne sont pas de même proportion ou de même nature qu'on soit ici en France, mais le cas de Sainte-Soline, puisqu'on parle des méga-bassines, et de la façon dont l'État a pris la question,
oui.
c'est-à-dire en réprimant, on ne parle que de ça, en fait on n'a pas parlé de la question de l'eau,
oui.
on a parlé de la répression, et on a parlé, voilà, c'est ça qui a fait... qui a fait l'actualité plus que la question de l'eau.
Oui.
Et c'est ça qui est bien dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi dans nos colonnes, refléter un petit peu ce qui se passe, mmh. raconter ce qui se passe, et aussi c'est pas tant de la résistance que pour la Confédération paysanne, quoique là, ils vont aller dire à la mairie de Rodillan qui soutient le projet de ferme verticale pourquoi ils ne sont pas d'accord avec des arguments. Donc mmh. il y aura des prises de parole, il y aura des discussions, et c'est par la discussion et le dialogue qu'on peut aboutir à des choses, quoi,
et
en
oui.
fait. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a aussi mis l'accent sur cette initiative du 15 avril. Et donc on peut retrouver tous les arguments dans le journal vendredi.
À retrouver aussi dans le journal de ce vendredi un peu de culture. La Marseillaise
oui.
invite à découvrir une conférence illustrée par Thierry Arquex sur le quartier de Figuerolles à Montpellier.
Oui, alors Thierry Arquex, nos lecteurs le connaissent bien, hein, il nous fait une chronique toutes les semaines sur l'histoire de l'Hérault de Montpellier. Il est sociologue, il est aujourd'hui à la retraite, mais c'est un historien aussi, un ancien instituteur,
oui.
et donc il consacre son temps à continuer à étudier. Et ce quartier de Figuerolles, il lui tient particulièrement à cœur, puisqu'il en est natif.
Mmh.
Il va offrir et animer une conférence illustrée
oui.
sur l'histoire de ce quartier. Ça se passera vendredi à la Carmagnole à Montpellier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a tout un fond photographique passionnant qui permet de voir l'évolution. Et donc, il va exposer tout ce qu'il a pu lui mettre à jour au cours de ses nombreuses recherches. Et il a consacré sa thèse en sociologie à ce quartier de Figueroles.
D'accord.
C'était vraiment une invitation au voyage. C'est ça qui est génial en fait, c'est qu'on est à Montpellier et on peut voyager très loin dans un seul quartier. Donc ça va être une invitation au voyage sur vraiment à partir d'une époque très ancienne à la plus récente. Hein. Il s'interdit un peu parce qu'il dit que c'est pas dans son domaine de compétence de parler de la politique actuelle, mais pareil, là, le public va pouvoir aussi mesurer les évolutions.
Oui.
Et donc le but aussi, c'est que il nous explique qu'il a accumulé tous ces documents, qu'ils soient écrits ou visuels, pour partager et renouer des liens.
D'accord.
Et il a quand même noté aussi, et il nous les explique, que c'est important parce que en 3 ans, les choses ont encore beaucoup changé dans ce quartier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va aussi s'attarder sur la géologie du sol.
Oui.
Puisque ça a été quand même quelque chose qui a été déterminant pour l'implantation de la ville actuelle. Hein.
D'accord.
Ce qui est intéressant et qu'on découvre en lisant l'article que nous avons fait, évidemment en allant l'écouter certainement aussi, absolument, c'est que il va partir de l'évolution, de l'essor de l'agriculture à la révolution industrielle.
D'accord.
Jusqu'à la situation économique aujourd'hui, puisque c'est un quartier, Figueroles, relativement récent. Et il y a aussi un principe qui nous explique, c'est qu'il va faire, évidemment, c'est un exposé vivant et animé.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fonction des questions ou des témoignages du public, il va orienter les documents, et donc ça va pas être un cours magistral, hein, puisque c'est le lien qui va être important, les liens qui vont se nouer. Et puis quand on vit à Montpellier, qui est une ville qui mute beaucoup, qui a un essor,
et surtout le quartier Figueroles.
Voilà. Et à Figueroles, c'est bien d'avoir connaissance des racines de ce quartier.
Oui.
Et je pense qu'après, on s'y déplace différemment et on y vit différemment.
Mmh. Et puis pour rajouter à ça, chers auditeurs, je vous invite à vous joindre sur le site du collectif des radios libres d'Occitanie, où vous pourrez retrouver un portrait de ce quartier Figueroles, mais pas que, des Beaux-Arts et de tous les quartiers de Montpellier.
C'est génial aussi.
Toutes ces informations sont bien sûr à retrouver, chère Françoise, dans l'hebdo de la Marseillaise, à paraître ce vendredi 14 avril. Et quant à nous, on se donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine.
À très volontiers.
Merci Françoise.
Merci.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.